Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi soir 17 décembre 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. L'Iran et la Hongrie se prononcent en faveur du développement de la coopération bilatérale. Les caméras de l'AIEA seront installées après des inspections techniques, sécuritaires et judiciaires minutieuses, selon le porte-parole de l'Organisation de l'énergie atomique de l'Iran. Dans le même temps, le principal négociateur iranien a souligné qu'il va y avoir une pause dans ces négociations sur la levée des sanctions à Vienne et les délégations vont se retrouver dans quelques jours à Vienne pour reprendre leur parler. Les forces yéménites ont abattu un avion espion de fabrication US à Marib, Cisjordanie. Occupé, un colon a été tué et deux autres blessés dans une opération. Le président sénégalais veut proposer une législation harmonisée dans le domaine pétrolier et minier à l'échelle de l'Union africaine. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Mettant l'accent sur le lancement d'une commission conjointe entre l'Iran et la Hongrie pour développer les interactions économiques et politiques bilatérales, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré « Les relations irano-hongroises ne sont pas à la hauteur des relations souhaitées par les deux pays. Nous pouvons amener le niveau des relations à un niveau acceptable grâce à une coopération bilatérale. » Évoquant lors d'une rencontre avec le ministre hongrois des Affaires étrangères à Téhéran, le développement de la coopération économique entre les deux pays, Ebrahim Raisi a déclaré « L'Iran et la Hongrie ont un grand potentiel pour développer leurs relations bilatérales et accroître leurs échanges économiques ». Le président Raisi était qualifiant les relations entre les pays d'Europe de l'Est et l'Iran d'historique et d'importante, a affirmé que si les pays d'Europe de l'Est agissaient de manière indépendante, ils en bénéficieraient politiquement et économiquement. Le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce exprimant sa satisfaction de l'intérêt porté par l'Iran aux relations commerciales et économiques bilatérales a déclaré « Nous travaillons à améliorer le niveau des relations entre Téhéran et Budapest ». Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères pour les affaires internationales et juridiques et parlementaire et porte-parole de l'Organisation nationale de l'énergie atomique Behrouz, Kamal Vandi, a déclaré, après des enquêtes techniques, sécuritaires et judiciaires détaillées, les caméras de l'Agence internationale de l'énergie atomique pourront être à nouveau installées dans le complexe de Tessa à Karaj. Behrouz Kamal Vandi a tenu ses déclarations en réponse à des informations contradictoires et à certains articles publiés dans des médias et afin d'éclairer l'opinion publique. Dans le même temps, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères et le principal négociateur de Téhéran dans pour parler sur la levée des sanctions à Vienne, M. Barelli, a déclaré qu'il va y avoir une pause dans les négociations et les délégations vont se retrouver dans quelques jours à Vienne pour poursuivre en fait leur pourparlers et leurs négociations. Les forces yéménites ont abattu un avion espion de fabrication US à Marib. Le mouvement yéménite d'Ansarallah a annoncé avoir abattu un avion espion de fabrication américaine dans le gouvernorat de Marib, dans le centre du Yémen. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari, a déclaré que les défenses aériennes ont réussi à abattre un avion espion de fabrication américaine alors qu'il menait des actions hostiles il y a quelque temps dans l'espace aérien de Wadi Ubaïda dans le gouvernorat de Marib. Le porte-parole des forces armées yéménites a ajouté dans un communiqué que l'avion avait été abattu avec une arme appropriée sans fournir d'amples détails. Nos forces armées ne ménageront aucun effort pour protéger l'espace aérien yéménite tant que l'agression et le blocus se poursuivront, a-t-il enchéri. Depuis près de 7 ans, le Yémen est en proie à une agression menée par la coalition d'agression saoudienne, une agression qui a fait plus de 233 000 martyrs et 80% de sa population d'environ 30 millions de personnes est devenue dépendante de subventions dans la pire crise humanitaire au monde, selon les Nations Unies. Un Israélien est tué et 2 autres ont été blessés dès le jeudi lorsqu'un véhicule roulant à vive allure a ouvert le feu contre les 3 colons à proximité de la colonie de Homesh dans le nord de la Cisjordanie occupée. Le mouvement de résistance islamique palestinienne Hamas a béni l'opération héroïque évoquant une lutte légitime jusqu'à ce que l'occupant soit expulsé de toutes les terres palestiniennes et que les colons en soient évincés. L'opération est une réponse aux crimes commis par Israël contre le peuple palestinien et la Cisjordanie et restera le centre du soulèvement contre l'occupation, a-t-il déclaré. Le groupe du Front populaire de libération de la Palestine, FPLP, a également salué l'opération. Ce qui s'est passé près de Naplouse est une déclaration selon laquelle notre peuple ne se soumettra pas à l'occupation. Le message aux villes de Cisjordanie est que nous aborderons l'occupation dans le langage des balles, a déclaré un non-responsable du FPLP. Nous bénissons l'opération héroïque menée par des combattants de la résistance parmi notre peuple, a déclaré le porte-parole de la branche Cisjordanie du djihad islamique. Le président sénégalais veut proposer une législation harmonisée dans le domaine pétrolier et minier à l'échelle de l'Union africaine. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé que Diamia Dio, à 30 km de Dakar, son intention de proposer à l'échelle de l'Union africaine une législation harmonisée dans le domaine pétrolier et minier afin d'éviter la compétition ruineuse entre les pays pour attirer les investisseurs. Pour Macky Sall, il est nécessaire pour les pays africains d'attirer des partenaires financièrement et techniquement fiables sur la base d'une législation claire qui sécurise l'investisseur et protège les intérêts de nos pays. Il a fustigé dans le même temps la décision de certains pays développés de ne pas financer l'exploitation des énergies fossiles, décision qui risque d'atténuer les efforts fournis en Afrique pour le développement du continent. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Restez avec nous. On va vous proposer dans une poignée de secondes notre commentaire politique. L'AIEA ne pourra pas avoir accès au contenu des caméras du site nucléaire Tessa qu'après la levée des sanctions, souligne l'Iran, ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a déclaré ce jeudi 17 décembre que l'Agence internationale de l'énergie atomique des Nations unies, AIEA, ne pourra pas avoir accès au contenu de caméras de surveillance sur le site nucléaire de Tessa qu'après la levée des sanctions contre l'Iran. Mercredi 15 décembre, Téhéran a annoncé être parvenu à un bon accord avec l'AIEA qui, selon lui, répondait à certaines des préoccupations présumées concernant le programme nucléaire pacifique de l'Iran et aiderait à poursuivre et à renforcer la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les médias iraniens ont rapporté que l'accord prévoyait d'autoriser l'AIEA à changer les caméras de surveillance de l'installation nucléaire de Tessa à Karaj après avoir terminé la majeure partie des enquêtes judiciaires et de sécurité sur les caméras endommagées. Ils ont précisé que l'AIEA aussi condamné l'acte de sabotage imputé à l'entité sioniste dont a été victime cette installation et qu'elle a accepté l'examen technique des nouvelles caméras par des experts iraniens avant de les placer. L'AIEA a publié plus tard une déclaration sur l'accord conclu avec l'Iran indiquant qu'elle installera bientôt de nouvelles caméras de surveillance dans l'atelier de fabrication de composants de centrifugeuses dans l'usine iranienne de Karaj. Ces caméras qui seront installées dans les prochains jours remplaceront celles retirées de l'installation de Karaj plus tôt cette année, a ajouté l'agence. Elle a également souligné que l'agence et l'Iran continueront de travailler sur les questions de garantie restantes en vue de les résoudre. À noter que le septième cycle de négociations sur la levée des sanctions contre l'Iran a été repris à Vienne fin novembre en se concentrant sur la question de la levée des sanctions contre l'Iran.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, les Émirats arabes unis qui avaient fait une commande de 80 Rafales, des avions de combat très sophistiqués auprès de la France, ont décidé tout d'un coup de céder une partie de sa flotte de Mirage à l'Égypte, mais également au Maroc. C'est une première, mais également, il faut également citer l'Algérie, qui a également cédé au charme de la vente d'armes par la France, qui a également commandé beaucoup de rafales à cette dernière. Alors, il reste à savoir comment cette vente d'armes très onéreuse, mais également parfaitement calibrée par la France, est poussée par Israël ou non. C'est ce que nous allons essayer de voir avec des experts de questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Après avoir fait une commande ferme de 80 avions de combat Rafale auprès de la France, les Émirats arabes unis s'apprêtent à céder une flotte de 68 avions de combat Mirage 2009 au Maroc et à l'Égypte. À l'occasion de la visite à Dubaï du président français Emmanuel Macron, les Émirats arabes unis ont signé un accord pour acquérir 80 avions de combat Rafale, indiqué l'Élysée dans un communiqué précisant qu'il s'agit de la commande internationale la plus importante jamais enregistrée pour cet avion de chasse mis en service depuis 2004. Cette commande vise à remplacer la soixantaine de Mirage 2009 acquis en 1998 par les Émirats et dont une partie sera transférée au Maroc et l'autre à l'Égypte. Le Mirage 2000 est la dernière version de ce type qui a été fabriquée en France pour l'UAE Air Force. L'avion est équipé des technologies très avancées qui lui permettent de mener des attaques aériennes de haute précision. Le Maroc est également sur le point d'acquérir 8 hélicoptères Caracal H-225M qui viendront s'ajouter à sa flotte militaire. Ce contrat, qui vient à point nommé la conclusion de négociations portant sur un contrat d'acquisition de 8 hélicoptères H-225M Caracal auprès d'Airbus Hélicoptères, ont réuni les parties marocaines et françaises. De son côté, le Maroc est déterminé à réaliser le plan de modernisation de son arsenal militaire qu'il a entamé ces dernières années, alors que le projet de loi de finances marocain pour 2022 a alloué 12,8 milliards de dollars pour l'achat et la réparation d'équipements pour les forces armées royales marocaines.
Voilà pour le reportage. Alors, comme j'ai promis, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau deux experts de questions internationales, en commençant par M. Bernard Cornu, expert des questions politiques depuis Paris. Monsieur Cornu, bonjour.
Bonjour.
Un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Un grand bonjour à Monsieur Philippe Hougon, reporter de guerre et expert des questions internationales qui est avec nous également depuis Paris. Monsieur Hougon, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bien, nous allons entrer dans le vif du sujet tout de suite avec ma première question à l'égard de Monsieur Bernard Cornu depuis Paris. Alors, Monsieur Cornu, bien sûr, la France qui essaye de vendre des armes très, très sophistiquées à certains pays de la région, en commençant par les Émirats arabes unis, mais également la France va au-delà de là et vend des armes au Maroc, à l'Égypte et à l'Algérie, qui va très certainement déboucher sur l'instabilité et peut-être pas la guerre. Que pensez-vous ?
Disons, moi je suis en général pour un désarmement total et qu'une sécurité organisée au niveau mondial, global, qui couvre non seulement les aspects militaires, mais d'autres aspects de santé et de sécurité contre le banditisme et tout ça. Donc, de toute façon, je suis contre ces ventes d'armes et pour le désarmement global. Mais il est assez logique que la France cherche et le gouvernement actuel cherche à promouvoir des ventes. Notre ministre des Affaires étrangères était député dans une région qui fabriquait des armes et il est très intéressé par ce sujet-là, beaucoup plus que par rechercher la paix, y compris au Yémen, ou la guerre en Syrie, où la France est impliquée malheureusement aux côtés des Américains. Et donc, face à des pays très riches comme les Émirats, il est aussi logique malheureusement qu'ils cherchent à moderniser leur armement et à s'attirer les faveurs de la France, malheureusement, face à l'Égypte qui aurait d'autres choses à acheter que des armes et qui n'en a pas vraiment besoin, on peut être beaucoup plus sceptique. et disons déçu même de cette attitude de la France. Ce que je remarque, c'est que quand même il y a eu des dialogues politiques dans la dernière tournée du président Macron au Qatar, dans les Émirats et en Arabie Saoudite. Et j'espère que, même si je ne le sais pas, j'espère qu'il a pu discuter avec les Émirats, ce client très fortuné, qui récemment s'est sorti en grande partie de la guerre au Yémen, discuter aussi du conflit en Syrie, puisque un ministre des Émirats s'est rendu récemment à Damas, et dans le but de négociation, donc on ne connaît pas le détail, dans le but peut-être aussi de faire rentrer à nouveau la Syrie dans la Ligue arabe, dont elle était suspendue malheureusement, de façon très injuste. Donc est-ce qu'il y a eu des discussions de paix? Si effectivement il y a eu ces discussions tendant à trouver des solutions politiques en Syrie, à cesser les combats, cesser les envois de mercenaires financés par les pays riches du Golfe, alors effectivement cette visite serait positive et je voudrais bien éventuellement, disons, excuser ou pardonner cette vente d'armes que je ne souhaitais pas. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est le dialogue pour la paix avec les pays qui ont une influence dans cette région-là, a priori parce qu'ils ont du pétrole, parce qu'ils ont du gaz et aussi parce qu'ils sont riches et qu'ils ont les moyens de financer des mercenaires, y compris au Yémen d'ailleurs, où le Soudan a été prié d'envoyer des mercenaires sur le terrain. Voilà, donc je pense que ces considérations d'ensemble sont importantes. La paix est prioritaire, les armements ne sont pas nécessaires.
Merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Hugon depuis Paris. Alors, Philippe Hugon, d'abord, merci d'être avec nous. Alors, le ministre de la Défense s'est rendu en Algérie. Et voilà que maintenant, le président français se rend aux Émirats arabes unis et ont l'audace, tous les deux, de parler de la paix alors qu'ils sont là pour vendre des armes qui vont certainement déboucher sur l'instabilité et même sur la guerre. Que pensez-vous?
Oui, alors je pense qu'il faut d'abord se poser cette première équation, c'est de savoir combien rapporte la paix. La paix ne rapporte pas d'argent, la paix, elle en coûte de l'argent. La vente d'armes rapporte énormément d'argent, mais des sommes absolument colossales. Donc on ne va pas passer à côté d'un tel marché. Et quand je dis « on », bien sûr, c'est la France, c'est à la fois les industriels, qui collaborent avec les fabricants d'armes et avec les vendeurs d'armes, pardon. Et donc, on peut estimer aujourd'hui que ce marché avec les Émiratis, mais pas seulement avec les Émiratis, c'est le cas avec tous les pays, Maroc, Algérie, tout ce que vous voulez, dès l'instant où vous avez de pareilles sommes en jeu, eh bien, on a un vrai dicton en France, on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Le problème, c'est que la vente de ces armes va obligatoirement créer des zones de tension et va déstabiliser un certain nombre de gouvernements qui va pouvoir interagir et faire pression sur d'autres pays moins bien équipés, moins bien préparés à la guerre. Alors il faut savoir qu'on a cette deuxième équation qui est la surpopulation que l'on a à travers le monde. Hein. On est bientôt 8 milliards. On sait très bien que la planète ne peut pas supporter un tel poids et que dans les 15 ans qui viennent, il faudra éliminer 4 à 5 milliards de personnes si on veut conserver un certain équilibre. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, on est à l'aube d'une famine mondiale, personne n'en parle, tout le monde fait l'autruche, les mines de phosphore sont en train de s'assécher et on va avoir une période extrêmement instable dans les années qui viennent. La crise financière va nous rattraper également, mais là je pense que ça demandera 5 à 6 ans afin de retrouver une crise absolument gigantesque comme on n'en a pas connu à travers le monde actuellement. Donc on a actuellement une conjoncture d'aventure, de situation qui va nous mettre dans une situation extrêmement complexe. Alors bien sûr que je suis contre la vente de ces armes, hein. On ferait mieux de fournir des produits alimentaires et des médicaments à des pays qui en ont vraiment besoin plutôt que de financer ces armes de mort, puisque ces armes serviront. Il faut bien savoir que ces armes ne sont pas anodines et ces armes vont servir dans les années qui viennent à répandre la mort. Donc je ne peux pas collaborer et cautionner cette vente d'armes. Mais il faut savoir que la France est en faillite financière, qu'on a une situation économique absolument catastrophique. Et comme je vous le disais, l'argent n'a pas d'odeur. Donc quand on peut récupérer des marchés et prendre des marchés à d'autres nations, eh bien on ne va pas se poser la question de savoir si c'est bien ou mal. On continuera de vendre des armes comme on l'a toujours fait. Ce n'est pas, l'histoire ne date pas d'hier, hein. On a vendu des armes en Afrique, on a vendu des armes en Asie, on a vendu des armes de partout. Et si en plus cette vente d'armes permet de rapporter beaucoup beaucoup d'argent et de pouvoir ingérer dans un certain nombre de pays et créer des zones de déstabilisation, que ce soit en Afrique, au Proche-Orient ou en Asie, ce phénomène-là ne pose pas du tout un problème moral à nos politiques et à nos financiers. Donc il faut bien s'attendre à ce que ces ventes d'armes se réalisent d'une façon permanente à un certain nombre de pays qui, je dirais, sont entre guillemets pas respectables.
Oui, vraisemblablement, vous êtes tous les deux contre la vente d'armes, mais le gouvernement français ne voit pas cette affaire de cet œil-là. Et Bernard Cornu, bon, il faut savoir que quand même, cette vente d'armes s'effectue malgré tout, mais la question qui se pose, Bernard Cornu, est la suivante. Pourquoi cette politique de deux poids deux mesures? D'une part, on envoie des émissaires partout dans le monde pour défendre le droit de l'homme et parler de la paix en Algérie, par exemple, et de l'autre côté, on vend des armes qui vont certainement déboucher sur la mort de centaines et des milliers de personnes.
C'est sûr qu'il y a une contradiction de fond. Nous sommes conscients en France et nous connaissons les violations des droits de l'homme évidentes qui sont dans certains pays comme l'Arabie Saoudite. Le principal, c'est là où il y a le plus de violations, mais aussi d'autres pays riches qui ne respectent pas les droits liés à la pratique des religions, qui ne respectent pas certains droits des femmes. Effectivement, nos pays occidentaux sont un peu hypocrites de pouvoir accepter de vendre des armes à ces pays-là sans discuter fermement, publiquement, des droits de l'homme. Alors certains dirigeants disent qu'ils en discutent en privé en évitant des proclamations publiques. On ne peut pas rendre compte effectivement de ces discussions privées s'il n'y a pas de communiqué à la suite. Je voudrais quand même nuancer la paix. La paix rapporte de l'argent parce que la paix maintient les clients, alors que la guerre détruit nos clients pour des produits généraux, des réfrigérateurs, des télévisions, de l'alimentaire, des machines et tout ça. La guerre détruit nos clients, détruit l'économie des autres pays et donc elle est très nocive. Et il faut donc promouvoir beaucoup plus la paix pour que l'ensemble du monde se développe. Si les armements génèrent de l'argent, ça les génère pour un secteur très précis de la technologie, très avancé. Pour des gens, les marchands d'armes, on a vu parfois dans des ventes dans différents pays des commissions qui faisaient plusieurs centaines de millions de dollars et qui revenaient en partie vers les politiques qui étaient en connivence avec ces marchands d'armes. Et donc ceci est très dommageable pour la stabilité même de nos pays. Et d'ailleurs, des enquêtes sont encore en cours en France sur des affaires au Pakistan, sur des affaires en Libye. Et donc, il est important que la justice aille jusqu'au bout pour dévoiler tout ce qui a entouré ces ventes d'armes. Et d'ailleurs, pendant la guerre Irak-Iran, il y a eu des ventes d'armes actionnées par les Américains, par les Israéliens, pour que le conflit dure. Donc, les marchands d'armes sont toujours très présents pour entretenir les guerres et parfois même les démarrer. Et donc ceci doit être analysé de très près. Et chaque fois qu'il y a des actions en justice, il faut les pousser jusqu'au bout. Et que je pense que l'espérance du monde est que dans une justice qui fonctionne au niveau universel et jusqu'à des chefs d'État, quand ces chefs d'État, des chefs d'État ont menti, ont abusé de la confiance des gens, ont manipulé les médias pour provoquer des guerres.
Bernard Cornu, revenons encore une fois à cette vente d'armes par la France à certains pays, dont l'Égypte, le Maroc et les Émirats arabes unis tout récemment. Mais tout reste à savoir, Bernard Cornu, que cette vente d'armes onéreuses est parfaitement calibrée par la France et, oui ou non, poussée par Israël. Car Israël a tout à gagner en créant l'instabilité dans la région. Que pensez-vous ?
C'est difficile à répondre parce que c'est vrai qu'au Maroc, il y a toujours eu des relations maintenues entre le Maroc et le royaume du Maroc et l'État d'Israël, où il y a de nombreuses communautés marocaines. Il y a eu des visites d'État, enfin de ministres, il y a des connivences importantes entre le Maroc et Israël. Donc, à l'opposé, l'Algérie a toujours soutenu, par exemple, le mouvement palestinien. On l'a vu encore récemment lorsque l'Algérie a gagné une coupe de football arabe contre le Maroc et que tous les joueurs se sont déployés sur le terrain en affichant non seulement le drapeau algérien, mais aussi un grand drapeau palestinien. Donc ceci était une façon symbolique de s'opposer à la position, non pas du peuple marocain, mais des autorités marocaines qui facilitent leurs relations avec Israël et établissent des connivences avec les services secrets israéliens. On l'a vu récemment avec les publications sur le réseau, l'utilisation du logiciel d'origine israélienne Pegasus. Donc je pense que dans certains pays, il y a des connivences entre les marchands d'armes, même les autorités françaises du ministère des Affaires étrangères et les autorités israéliennes. Dans le cas des Émirats, c'est moins sûr. C'est sûr que suite aux actions de temps de Trump et de son gendre Kouchner, il y a eu le rétablissement de certaines relations diplomatiques. Mais je pense que, en général, la population arabe est tout à fait contre, et même dans les pays riches, est tout à fait contre cette normalisation avec l'État d'Israël tant que la justice ne s'est pas exercée pour rétablir les droits des Palestiniens. Voilà, mais c'est une lutte permanente des peuples ici en Occident aussi pour imposer la priorité à la justice et non pas à l'économie et aux ventes d'armes.
Oui. Philippe,
il y a des grandes manifestations à Londres. D'ailleurs, je fais partie d'un mouvement à Londres conduit par la gauche anglaise contre les guerres qui fait très souvent des manifestations. Et en France aussi, il y a des manifestations nombreuses aussi du mouvement de la paix pour protester contre ces ventes d'armes et l'incitation à laisser continuer des guerres comme au Yémen ou en Syrie ou en Irak pour des intérêts économiques.
Oui, tout à fait. Philippe Hugo, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie, à cet égard, comme la France nourrit en armes le Maroc et l'Algérie. L'Algérie qui soutient la cause palestinienne et le Maroc qui a rétabli sa relation avec Israël. En nourrissant ces deux pays-là, je crois qu'on nourrit le différend qui devrait donc continuer entre ces deux pays-là. Que pensez-vous ?
Oui, alors, vous savez, c'est ce que je vous disais, l'argent n'a pas d'odeur. Aujourd'hui, la France vend des armes à n'importe qui et il suffit de passer par des sociétés dans des paradis fiscaux qui permettent de contourner un certain nombre de lois. Ça, moi, j'en ai été témoin lorsque j'avais mon entreprise d'exportation. Eh bien, pour éviter les sanctions, on passait par des sociétés annexes ou de petites sociétés. Il y a même des grosses sociétés françaises qui passaient par ma petite société pour vendre un certain nombre de produits à certains pays qui étaient sur liste rouge. Donc là, je suis bien placé pour en parler et de savoir comment se passent les choses aujourd'hui. Alors, bien sûr, il est clair que la France ne renoncera jamais à la vente de ces gros contrats, quel que soit le prix à payer en vie humaine pour un certain nombre de pays. Vous savez, je crois que on est aujourd'hui dans la société occidentale, une société qui est basée sur l'argent, où le statut de valeur de l'être humain se joue sur la grosseur de son compte en banque. Donc on sait très bien que tous les pays qui ont basé leur valeur naturelle sur l'argent, leur valeur de base sur l'argent, sont des pays qui se sont tous effondrés, puisque l'argent n'est pas une bonne valeur de référence sur la qualité des gens et des peuples. Au contraire, cet argent, elle corrompt les gens, elle pourrit les gens, et elle fait prendre des décisions à des gouvernements qui ne sont pas de bonnes décisions. Donc moi, je trouve que c'est extrêmement néfaste ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, je pense qu'on ferait beaucoup mieux d'investir de l'argent dans la paix, de façon à trouver des solutions pérennes et de ne pas affamer les gens, de ne pas... c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein. Vous allez en Afrique, vous savez, j'ai eu un bureau à une époque au Bénin, en Afrique, et on a vu comment les choses se passaient au Mali, comment les choses se passaient au Niger, Donc on sait très bien qu'il existe des solutions. Le problème, c'est qu'on ne veut pas les appliquer, parce que ce sont des solutions qui ne rapportent rien. Du moins, ça pourrait rapporter à long terme, mais à très court terme, ça ne rapporte rien. Et aujourd'hui, toutes ces sociétés qui vendent des armes... Oui.
Philippe Hugon, justement, la même question que j'ai posée à Bernard Cornut à cet égard, c'est cette vente d'armes qui est calibrée, organisée par la France à ces pays-là, est-ce que vous ne pensez pas que c'est encouragé et même poussé par Israël, qui a tout à gagner en créant l'instabilité dans la région ?
Alors, en ce qui concerne le Proche-Orient, c'est autre chose. Il est vrai qu'Israël est dans une position économique qui est effroyable, hein. Il suffit de regarder les ratios financiers d'Israël. C'est un pays qui n'existe et qui ne tient que par l'aide américaine aujourd'hui, et qu'Israël a tout intérêt à créer des zones de stabilité au Proche-Orient afin de pouvoir conserver ses frontières et son pays. On sait très bien que le jour où la Ligue arabe et tous les pays arabes seront solidaires, je ne donne pas cher de la continuité de ce pays. De toute façon, il ne faut pas vous faire des illusions. Dans 20 ans, Israël n'existera plus sous cette forme actuelle. Et Israël ne pourra plus tenir, car c'est une situation intenable. Quand on tient un pays par la force, et c'est le cas notamment d'Israël, on l'a vu dans les pays communistes notamment, il arrive à un moment donné où vous arrivez dans une position qui est intenable. Intenable financièrement, intenable économiquement, intenable militairement. Donc pour l'instant, si Israël existe encore, c'est parce qu'il y a des dissensions dans les nations arabes au Proche-Orient. Le jour où ces nations-là seront réunis et seront solidaires notamment de la Palestine, eh bien je ne donne pas cher de la situation d'Israël dans sa forme actuelle, j'entends. Hein. Donc il est clair qu'Israël a tout à gagner à ce qu'il y ait une situation instable au Proche-Orient.
Bernard Cornut, est-ce que vous voulez bien réagir à cet égard, je vous prie?
Bon, il faut savoir que dans l'industrie d'armement, il y a beaucoup d'électronique. Et que l'électronique, c'est très compliqué à comprendre les codes informatiques, le codage informatique qui est à l'intérieur de toute cette partie électronique. Donc d'une part, il est sûr que Dassault était dirigé avant par un juif français qui avait vendu les Mirage et les autres avions à Israël, et à une époque où la France, disons un peu avant De Gaulle, était tout à fait favorable géopolitiquement à l'État d'Israël et donnait des faveurs exceptionnelles pour ses ventes d'armes. Et à partir du moment où De Gaulle a commencé à vouloir refuser et limiter ses ventes d'armes, il y a eu même des détournements. On a connu l'épisode des frégates de Cherbourg qui ont été prises contre la volonté française et emmenée discrètement en quelques jours par des équipes israéliennes qui ont fait ce coup de force. Donc il est difficile dans ces codages informatiques qui sont dans les armements, je pense qu'il y a de toute façon à la main du ministère de la Défense français la possibilité à distance de télécommander certaines de ces fonctions informatique. Par exemple, pour le cas où les Émirats arabes unis voudraient attaquer un pays très ami de la France, très allié de la France, comme le Liban ou la Grèce, pour des raisons enfin, tout à fait imaginaires actuellement, mais je suis sûr qu'à distance, on peut tout à fait manipuler ces dispositifs informatiques, ces codes informatiques, pour empêcher toute utilisation contre nos propres intérêts. Donc je pense que tous ces armements sont des leurres, parce qu'il y a beaucoup d'informatique qu'il est très difficile à décoder, donc il est possible qu'on se fasse rouler, en fait, que tout acheteur de ces armements sophistiqués se fasse rouler, qu'il puisse pas. Alors il peut effectivement dans des conflits dans lesquels la France n'aurait pas d'alliés, ça pourrait servir, mais dans des conflits où la France aurait des alliés, ça pourrait être désarmé à distance. Ça, j'en suis persuadé, c'est une évidence de l'informatique très complexe des systèmes d'armes modernes.
Bernard Cornu, expert de questions internationales depuis Paris. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Un grand merci à M. Philippe Hugon, qui était également avec nous depuis Paris, d'avoir apporté donc ses explications à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
La puissance américaine, suite et fin. C'est la première fois que d'autres dictent à l'Occident plutôt que de recevoir des instructions sur la façon de se conformer aux lignes rouges américaines. Un soupir de soulagement presque audible a résonné dans les couloirs occidentaux. Bien qu'il n'y ait pas eu de percée lors de la réunion virtuelle de l'équipe Biden-Poutine, les discussions ont, sans surprise, été fortement axées sur le sujet de préoccupation immédiate. L'Ukraine, dans un contexte de crainte généralisée que le volcan ukrainien n'entre en éruption à tout moment. Lors de la réunion, la proposition d'entamer des discussions de gouvernement à un niveau inférieur sur les lignes rouges de la Russie et sur tout arrêt de l'expansion de l'OTAN vers l'Est a été acceptée. Jake Sullivan a toutefois jeté un pot d'eau froide sur cette proposition en soulignant fermement que les États-Unis n'avaient pris aucun engagement sur ces deux questions. Biden, comme annoncé à l'avance, a mis en garde contre de fortes mesures économiques et autres si la Russie intervenait en Ukraine. Ce qui est le plus remarquable, cependant, c'est que les États-Unis menacent seulement de sanctionner la Russie ou d'envoyer plus de troupes dans la région, au lieu de demander une intervention militaire explicite de l'Occident et de l'OTAN en Ukraine. Dans des déclarations antérieures, Biden et d'autres responsables américains sont restés vagues quant à la réponse de Washington à une invasion russe. Ils ont mis en garde à plusieurs reprises contre les conséquences, alors même qu'ils s'engageaient à nouveau en faveur de la souveraineté de l'Ukraine. Alors, devrions-nous tous recommencer à respirer ? En fait, non. En fait, l'urgence de la question ukrainienne a toujours été une sorte de faux fuyant. La Russie n'a aucune envie de s'enfoncer dans la boue épaisse et gluante d'un bourbier régional, même si certains Occidentaux en seraient ravis. Les forces de Kiev sont fatiguées, épuisées et démoralisées après avoir passé des mois dans des tranchées froides, le long de la ligne de contact. Elles n'ont guère envie de s'attaquer aux milices du Donbass, à moins d'être aidées de l'extérieur, bien sûr. Rien n'a été résolu sur ce qu'il convient de faire au sujet de la sombre dystopie plus large qu'est l'Ukraine, dans toutes ses diverses manifestations. Le président Poutine a évoqué l'accord de Minsk, mais personne, semble-t-il, n'a mordu à l'hameçon. La ligne de pêche est restée molle et il n'y a pas eu non plus d'accord sur ce qu'il fallait faire des débris accumulés de ce qu'on appelait autrefois les relations diplomatiques américano-russes. Ce dernier terme, relations diplomatiques, n'est plus qu'une mauvaise blague. La célébration n'est donc pas de mise. Les factions viscéralement anti-Poutine aux États-Unis et à Kiev sont furieuses. Un sénateur républicain américain, Roger Wicker, a averti que dans toute impasse concernant l'Ukraine, je n'exclurai pas une action militaire. Je pense que nous commettons une erreur lorsque nous retirons des options de la table. Donc j'espère que le président gardera cette option sur la table. À la question de savoir en quoi consisterait une action militaire contre la Russie, Wicker a répondu que cela pourrait signifier que nous nous tenons à l'écart avec nos navires dans la mer Noire et que nous détruisons en pluie battante la capacité militaire russe, ajoutant que les États-Unis ne devraient pas non plus exclure une action nucléaire de premier usage contre la Russie. L'Ukraine s'envenime donc, et si nous devons maintenant connaître une accalmie, ce n'est que cela, une accalmie. Les faucons américains et européens n'ont pas hissé le drapeau blanc. L'Ukraine est une trop bonne arme pour leurs besoins pour être mise de côté à la légère. Cependant, cette focalisation sur la crise ukrainienne revient à voir l'arbre, mais pas la forêt. Nous avons trois, et non une, mine à retardement prête à s'enflammer. Trois fronts donc. Chacun d'entre eux est distinct, mais étroitement lié et est désormais traversé par des niveaux inconnus d'objectifs stratégiques et de synchronisme. L'Ukraine, Taïwan et l'accord du PGAC chancelant qui suscite aujourd'hui une angoisse indicible à Tel Aviv. Ces trois arbres ne font pas le poids face à la question non résolue de l'architecture de sécurité européenne, de l'architecture de sécurité du Moyen-Orient et de l'architecture de sécurité mondiale. L'ordre existant, fondé sur des règles, a dépassé sa date de péremption. Il n'assure pas la sécurité et ne reflète pas la réalité des équilibres entre les grandes puissances d'aujourd'hui. Il est devenu pathogène, pour dire les choses simplement. Il est trop fossilisé dans le late culture de l'après-guerre. Dans une récente interview sur CNN, Farid Zakaria a demandé à Jake Sullivan, le conseiller de Biden pour la sécurité, qu'est-ce qui a été négocié avec la Chine après tous vos discours musclés ? Mauvaise question fut la réponse tranchante de Sullivan. Mauvaise métrique, a-t-il dit sans embâge. Ne posez pas de questions sur les accords bilatéraux, demandez ce que nous avons obtenu d'autres. La bonne façon de penser à ce sujet, a-t-il dit, est la suivante. Avons-nous fixé les termes d'une concurrence efficace où les États-Unis sont en mesure de défendre leurs valeurs et de faire avancer leurs intérêts, pas seulement dans la région Indo-Pacifique, mais dans le monde entier. Nous voulons créer la circonstance dans laquelle deux grandes puissances opéreront dans un système international dans un avenir prévisible. Et nous voulons que les termes de ce système soient favorables aux intérêts et aux valeurs américains. Il s'agit plutôt d'une disposition favorable dans laquelle les États-Unis et leurs alliés peuvent façonner les règles internationales de la route sur les types de questions qui vont fondamentalement compter pour le peuple de notre pays et pour les peuples du monde entier. C'est cette late culture maximaliste qui nous conduit à un point où ces trois questions explosives risquent ensemble une convulsion fondamentale de l'ordre mondial. Il faut remonter loin dans le temps pour trouver un moment où notre monde était aussi vulnérable à un changement soudain de fortune. Ce qu'Ambrose Evans Pritchard dans le Télégraphe appelle le cauchemar de l'Occident, une guerre sur trois fronts. « Que se passe-t-il? Eh bien, il s'agit certainement de quelque chose de très vaste portée. Et pourquoi les États-Unis insistent-ils sur une position aussi absolue pour l'ordre mondial, selon laquelle les autres grandes puissances n'ont pas le droit de fixer leur propre ligne rouge en matière de sécurité? Eh bien, c'est parce que les quatre cavaliers des grandes transitions. La pandémie, qui débouche sur un système mondial de réglementation de la santé, l'urgence climatique qui débouche sur un régime mondial de crédit et de débit de CO2, la révolution de la technologie et de l'intelligence artificielle qui nous fait entrer dans une ère mondiale d'automatisation et de robots, et de perte d'emplois bien sûr. Et enfin, la transition de l'économie classique vers la théorie monétaire moderne mondiale qui exige une remise à plat de la montagne de dettes mondiales qui ne seront jamais remboursées.
Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.